Et bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les informations cette semaine, on ne peut pas faire autrement, hein, entre l'investiture de Donald Trump, etc. En ce moment, Facebook, c'est brûlant. Il ne faut surtout pas, comment dire, poster des photos, des images ou ceci, ou des avis, parce que là, ça part dans tous les sens, j'ai remarqué ça. J'ai été aussi surpris combien les gens se disputent, chrétiens, pas chrétiens, enfin tout le monde y met son truc là-dedans. Et hier, je suis tombé sur une vidéo où on voit donc Donald Trump avec son épouse arriver donc à la Maison Blanche, où l'attendait bien entendu Barack Obama et son épouse. Et puis bon, ils se sont fait le bisou. La femme de Donald, je ne sais plus son nom, elle a donné un cadeau. Femme d'Obama, enfin c'était. Puis je me suis dit, bah dis donc, et tout le monde est en train de se disputer, mais eux, ils s'embrassent, ils vont aller manger ensemble, tu vois. C'est la folie. Et quelque part, ça m'interpelle, parce que je me dis, bah, finalement, nous, qu'est-ce qu'on peut à tout ça, et ce qui se passe, et ce qui se passe pas, et pourquoi, et comment, et qui sont ces gens-là, et les chrétiens qui viennent dire, ouais, mais il est chrétien, mais l'autre, non, mais il n'est pas chrétien, et sa moralité, pas sa moralité, bref. Bon, c'est vrai que quand on ouvre la Bible, tous les dirigeants n'étaient pas nécessairement des personnes à une moralité irréprochable. Hein? On peut partir du début de la Bible jusqu'à la fin. Tous les dirigeants politiques n'ont jamais été des gens moralement sains, n'est-ce pas? Hein? Même David n'était pas quelqu'un de sain, Salomon non plus. Et, je veux dire, voilà, il faut quand même remettre les choses à leur place et quelque part se dire aussi, nous, en tant que chrétiens, que notre royaume, finalement, n'est vraiment pas d'ici, n'est vraiment pas de ce monde. Ce matin, le prophète Malachie, ou Malachie, 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 c'est mieux, hein? Le prophète Malachie, le nom, ça signifie le messager. Et je crois que notre monde a de plus en plus besoin de messagers, d'authentiques messagers, accompagnés d'un authentique message, bien sûr celui de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et pour nous situer un peu mieux le contexte du livre de Malachie, il faut savoir que le ministère de ce prophète, dont le livre donc porte le nom, s'est déroulé au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est le dernier livre dans nos Bibles, dans l'Ancien Testament. Après l'exil, le temple de Jérusalem avait été reconstruit, les sacrifices y étaient offerts régulièrement, et cette période se situe à peu près en même temps que Néhémie. Et le ministère dans le temple de Jérusalem donc avait repris normalement, tout fonctionnait à nouveau, très bien sur le plan religieux. Hein? Les gens venaient aux réunions, les prêtres faisaient leur boulot, tout fonctionnait à première vue relativement bien. Et le livre de Malachie nous apprend néanmoins que les prêtres étaient lasses de leur ministère. Ils étaient lasses, fatigués de leur ministère. Et que plusieurs années s'étaient écoulées depuis l'inauguration du temple, qui avait procuré une joie incommensurable lors de son inauguration. Mais voilà, comme c'est souvent le cas, les années sont passées, et petit à petit, l'enthousiasme a laissé place finalement à une sorte de routine. Hein? Et les péchés donc, que va dénoncer Malachie sont en réalité très identiques que ceux qu'a dénoncé le prophète Néhémie. Et il semblerait aussi que l'être humain, finalement, de génération en génération, a les mêmes difficultés, les mêmes réflexes, les mêmes comportements, mais aussi les mêmes besoins. Et ce besoin, tout au long de la Bible, c'est ce besoin d'un retour vers Dieu, ce besoin de revenir vers la spontanéité de relation avec Dieu, vers la dépendance envers Dieu. Donc Malachie, je dirais, ben, c'est le chemin de retour. Je pense qu'on peut titrer cette réflexion ce matin comme Malachie, chemin de retour. Ce que reproche Malachie dans ce livre est qu'il y a finalement du relâchement. Il reproche au peuple d'avoir oublié que Dieu est d'abord un Dieu d'amour pour lui, et il reproche les négligences qui se sont installées. Il reproche que la vie religieuse est devenue quelque chose qui a seulement des formes extérieures, des formes adaptées, peut-être, à l'époque, à la situation, etc. Mais il manque du fond, il manque du cœur. La vie religieuse des croyants est devenue finalement banale. C'est sûr, on réfléchit pour améliorer cette vie religieuse, peut-être pour avoir plus d'impact, pour ceci, pour cela, mais les devoirs religieux sont devenus la routine. Et Malachie, dans ces quelques chapitres, va aussi indiquer qu'il y a une possibilité de revenir à Dieu. Il y a donc un chemin de retour. Et dans un premier temps, on va s'arrêter sur trois malheurs qui ont atteint le peuple de Dieu. Et ensuite, on ira vers le chemin de retour, le chemin du renouvellement, le chemin du bonheur. Donc, trois malheurs et un bonheur, finalement. Et on ne va pas s'arrêter donc que sur les malheurs, hein, ce serait dommage. Mais on va voir, même s'il y en a trois. Trois malheurs qu'on va découvrir dans l'Ancienne Alliance et dans toute l'histoire de l'Église. Ça nous parle. Ça a traversé les siècles. Comment Dieu agit, comment Dieu travaille lorsque le peuple de Dieu est confronté à ces trois malheurs. Alors j'ai choisi ce matin une version un peu particulière, c'est la parole de vie. C'est une transcription très simple avec une façon de conjuguer les verbes au présent, etc. Donc on va lire le chapitre 1er, les versets 1 à 5. Voici le message que le Seigneur a envoyé aux Israélites par l'intermédiaire de Malachie. Le Seigneur aime les Israélites. Le Seigneur déclare à son peuple, « Moi, le Seigneur, je vous aime. Je vous aime. Mais vous, vous me demandez, où est la preuve de ton amour ?» Et je vous réponds, est-ce qu'Ésaü n'était pas le frère de Jacob? Pourtant, j'ai préféré Jacob à Ésaü. Les gens de la famille d'Ésaü occupaient une région montagneuse. J'en ai fait un désert et j'ai livré leur pays aux chacals. Ces gens-là, les Édomites, diront peut-être, nous avons été écrasés, mais nous reconstruirons nos villes démolies. Voici ce que je dis, moi, le Seigneur de l'univers. Ils peuvent reconstruire. Moi, je démolirai ce qu'ils feront. On les appellera pays des gens mauvais. Et peuple contre le Seigneur est sans cesse en colère. Vous, les Israélites, vous verrez cela et vous direz, le Seigneur est grand, même en dehors du pays d'Israël. On s'arrête sur ces cinq premiers versets. Dieu donne des instructions à son peuple. On voit comment les choses se déclinent. Dans le livre de Malachie, il y a une sorte de dialogue qui s'installe. Dieu déclare quelque chose et la réponse du peuple tente de remettre en question la déclaration de Dieu. Dieu dit quelque chose, le peuple remet en question ce que Dieu a dit. En fait, Dieu déclare une chose et le peuple veut des preuves. C'est le premier malheur du peuple de Dieu. Un peuple de Dieu, finalement, aveuglé par l'orgueil et la suffisance. Dieu, prouve-nous que tu nous aimes. Ça, c'est le premier malheur qui peut nous arriver. En disant cela, le peuple pensait effectivement à des situations qu'il ne comprenait pas. On ne comprend pas tout. Le peuple en arrivait à dire, Dieu ne nous aime pas vraiment, finalement. Par rapport à nos situations, en tant qu'Église, hein, en tant que peuple de Dieu, mais aussi en tant qu'individu. Regardez, Ésaü, Dieu l'a haï, et Jacob, lui, il a été aimé. Donc Dieu fait des préférences. Il a des chouchous. Ça nous renvoie un petit peu à ce que nous avons vécu il y a quelques semaines, quand cet homme s'est levé ici, qu'on ne connaissait pas, et qui a commencé à sortir des choses troublantes. Vous vous souvenez? Des chouchous. Donc Dieu aime l'un et il n'aime pas l'autre. Pourtant, Jacob et Ésaü étaient deux frères jumeaux, nés du même père. Comment se fait-il, disaient les Israélites finalement, que l'un est aimé et que l'autre pas? Est-ce que Dieu aime seulement certaines personnes? Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut dire j'aime plus l'un que l'autre dans cette salle? Nous voulons donc des preuves de l'amour de Dieu. Dans sa vie, Ésaü a été irrespectueux des bénédictions qu'on appelle les bénédictions qui demeurent, des bénédictions dites spéciales, particulières. Le droit d'aînesse, par exemple, qui est le fait d'être l'aîné d'une famille. C'était une bénédiction particulière. On n'y peut rien. Si l'aîné de ta famille, tu n'y peux rien. C'est comme ça. C'est comme ça. Et Ésaü a banalisé ce privilège donné par Dieu au point que pour un simple creux d'estomac, une petite fringale, le désir d'un bon repas, il a banalisé la bénédiction de Dieu que Dieu donnait à un aîné. Le plan de Dieu, finalement, ce n'est pas si important que ça. Vous voyez ? Ésaü a réagi comme ça. Il s'est dit, le plan de Dieu, finalement, c'est pas si important que ça, je préfère bien manger, tant qu'à faire. Ça, c'est concret. Ça, c'est là, je le vois, je le sens. Ça sent bon les lentilles. Donc, je préfère bien manger. Et puis, Dieu avait donc donné des instructions à son peuple. Dieu voulait que son peuple, que dans son peuple, les familles restent attachées à lui. Il voulait que les maris et les femmes restent attachés à son alliance. Ésaü a trouvé que toutes ces choses, finalement, n'étaient pas si importantes que ça. Quelles conséquences dramatiques ! Dans le texte, Malachi rappelle qui est Édom, c'est-à-dire le peuple descendant d'Ésaü. Un peuple qui a combattu le peuple de Dieu. Un peuple ennemi du peuple de Dieu au travers de l'histoire. Une petite désobéissance, au début, paraît souvent légère. C'est pas bien grave. C'est pas un problème. C'est pas un souci. Et puis, au travers des générations, elle peut devenir une gangrène, une tragédie. Dans Hébreux, au chapitre 12, il est dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ». Et c'est vrai. Nous ne devons pas nous priver de la grâce de Dieu. Parce que c'est la seule chose qui nous donne de l'enthousiasme. C'est la seule chose qui nous permet de continuer et de ne pas baisser les bras. Et puis, il continue, donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause le trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. » Bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Nos choix ont des conséquences. Et les larmes, parfois, ne pourront rien y changer. Même les larmes sentimentales d'un retour à Dieu, n'ont pas pu corriger la direction qui avait été prise. Même les larmes n'ont pas pu rectifier le tir. C'est terrible comme texte. C'est un malheur, ça. C'est vraiment un malheur. Il n'y a pas de doute, Ésaü et Jacob ont été aimés avec la même intensité. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas des chouchous. Il n'a pas des personnes qu'il aime plus que d'autres. Mais l'amour de Dieu respecte aussi les choix personnels que l'être humain fait. Ça devait être terrible pour Dieu qu'Ésaü banalise le droit d'aînesse. Qu'Ésaü dise « bénédiction de Dieu ». Ouais, ça va. Finalement, je préfère mieux les lentilles. Avec les saucisses, c'est très bon. Le clou de girofle, c'est au top. Et on ne peut pas dire que Dieu ait haï Ésaü dès le départ. C'est pas vrai. C'est faux. On peut parler de l'élection pendant 10 ans, mais il faut être réaliste. Du point de vue, de notre point de vue, après que Dieu, il ait un point de vue, et que lui, il voit, et l'élection, c'est pas faux, l'élection, c'est quand on rentre dans la présence de Dieu, quand Dieu nous a sauvés, on regarde derrière, et on se dit, oh, ben, il m'avait choisi. Mais tant qu'on n'est pas là, Dieu use de patience afin qu'aucun ne périsse. Alors, Dieu est amour et il aime tous les hommes et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais Dieu respecte la liberté de choix des êtres humains. Vous allez me dire, oui, mais Jacob était aussi un pécheur. Ouais, certes, il avait un cœur rusé, mais en même temps, il recherchait quand même la proximité de Dieu. Il a quand même travaillé 14 ans pour avoir sa femme, quoi. C'est-à-dire, le gars, pendant 14 ans, parce qu'il avait choisi cela, il s'est fait avoir hein, sur ce truc-là. Normalement, c'était que 7. Mais le rusé s'est fait prendre à sa propre ruse. Il a été obligé de faire 7 ans de plus. C'est pas un contrat à durée indéterminée, mais presque. Hein. En tout cas, 14 ans pour avoir son épouse. Souvenez-vous aussi du bras de fer avec l'ange de l'Éternel. Jacob a dit à l'ange de l'Éternel, tu ne partiras pas avant que tu ne me bénisses. Jacob, rusé, tout ce que tu veux, mais quand même. Pour l'un, la bénédiction ne valait pas un repas. Pour l'autre, elle valait la peine de se battre pour l'avoir. Vous voyez? C'est deux façons de fonctionner complètement différentes. Jacob était un trompeur. Un arnaqueur, d'ailleurs c'est la signification de son prénom. Hein. Mais il a aussi appris ce que c'était que d'être trompé à son tour. Et après 14 ans, il a su ce que l'on pouvait ressentir lorsqu'on se fait tromper. Mais Jacob voulait la bénédiction de Dieu. Jacob désirait la proximité de Dieu. Il la voulait. Dieu aime les uns et les autres au point de laisser le libre choix. Mais il faut dire que Dieu a un penchant pour ceux qui sont prêts aussi à se battre pour le garder près d'eux. Ceux qui sont prêts à endurer peut-être une blessure s'il le faut, ne voulant en aucun cas que Dieu s'éloigne d'eux sans poser sa main sur leur vie. Peut-être que, voilà, Dieu veut aussi que malgré tout, nous aspirions à ce qu'il pose sa main dans nos vies. Ne peux pas vous parler de ces choses ce matin, mais sans penser à l'Apocalypse, au chapitre 1er, où Jésus se présente au milieu des églises, et devant le Christ, l'apôtre Jean tombe à genoux et le Seigneur met sa main sur l'épaule de Jean. Quand je le vis, dit Jean, je tombai à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte. Peut-être que c'est un privilège aussi, et on doit réfléchir à ça, c'est un privilège que d'avoir la main de Dieu posée sur notre épaule. C'est un privilège. Et de la désirer dans notre vie, de désirer cette main sur notre épaule, dans notre vie, cette proximité avec Dieu. Jacob l'a désiré. L'amour de Dieu laisse le libre choix, mais ce n'est pas facile. Et ce qui est dramatique finalement dans l'histoire des humains, c'est quoi? C'est le silence de Dieu devant ceux qui prennent la décision de vivre sans lui ou de lui prêter des intentions qui ne sont pas les siennes. Ça, c'est ce qu'il y a de plus triste. Et le jugement le plus terrible sur les humains, c'est ce silence. Peut-être que parfois dans nos vies, on a besoin de prier, Seigneur, ne te tais pas. Je ne t'entends pas. Ne te tais pas, s'il te plaît, parle-moi. Adresse-toi à moi. Je veux entendre ta voix. Et de son trône, je pense que Dieu aussi ne voit pas uniquement l'élection de Trump ou la guerre en Syrie. Il voit surtout une multitude d'injustices, d'ignorance, de méchanceté, même dans nos cœurs de chrétiens du dimanche. S'il venait pour exercer sa justice, ce serait légitime, totalement légitime. S'il venait pour nous anéantir, ce ne serait que justice. Dans un commentaire avec, je discutais avec on a une sœur qui est venue une fois ou deux là, Christiane. Elle a deux fils, dont un fils qui est très humaniste. Et il disait, oh là là, Trump, si, à la place de Dieu, il disait, Dieu doit s'arracher tous les cheveux sur la tête. Et moi j'ai dit, mais rien qu'avec moi, il en perd déjà pas mal. Pour replacer les choses dans leur contexte. Voilà pourquoi notre responsabilité est grande, nous qui affirmons le connaître, nous qui affirmons qu'il a changé nos vies, qui affirmons détenir le message, le vrai. Le respect du libre choix nous conduit malheureusement et bien trop souvent dans l'esclavage. Pas uniquement L'esclavage des passions, hein, mais pas uniquement les passions qui se voient. Elles peuvent être cachées, elles peuvent même avoir une odeur de piété. L'homme est libre, libre de refuser Dieu et de dire non, je ne veux pas de toi. Par contre, il y a une chose sur laquelle nous ne serons jamais libres et que nous aurons toute notre vie à lutter. Ce sont nos passions, notre cœur. Et la liberté que revendique l'homme en se passant de Dieu est la plus terrible, le plus terrible des esclavages qui puisse lui arriver. Le libre choix de venir à la croix est la plus grande liberté pour nous qui puisse exister. Nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes, mais c'est formidable, c'est magnifique. Il n'y a rien de plus important que ça finalement. Hein? Parce qu'arrivé à la fin de notre vie, la seule chose qui comptera finalement, hein, c'est ça. C'est que je suis assis dans les lieux célestes, en Christ. Il n'y a rien d'autre qui peut compter plus que ça. Peut-être que les gens que nous côtoyons, voisins, famille, amis, aimeraient être assis avec nous. Alors donc le premier malheur, c'est un peuple aveuglé par son orgueil et sa suffisance, un peuple qui en arrive à dire à Dieu, à penser même tout bas, mais Dieu, prouve-moi que tu m'aimes. Prouve-nous que tu nous aimes. Et en posant cette question, le peuple, même du bout des lèvres, le peuple démontre qu'il n'a plus de relation avec Dieu. Si nous avons une relation avec lui, on dit plutôt, je suis vraiment étonné que tu sois tellement bon avec moi, qui suis tellement mauvais. Ça, c'est la vraie réaction. Je m'étonne que tu aies autant de patience avec quelqu'un comme moi. Ça, c'est la vraie réaction. Comment fais-tu pour me rappeler toujours les mêmes choses? Comment tu fais, Seigneur, pour m'accepter encore? Comment tu fais pour me pardonner encore et encore et encore? Comment tu fais? Parce que quand je me regarde, mais moi, même moi, je ne m'aimerais pas, quoi. Et toi, tu m'aimes toujours. Ce n'est pas l'amour de Dieu qu'il faut remettre en doute. C'est nous. Je suis émerveillé par ton amour, impossible de ne pas tout faire pour que ceux qui m'entourent le découvrent à leur tour. Deuxième malheur qui met en évidence le prophète Malachie, c'est que le peuple de Dieu avait commencé à dédaigner la communion avec Dieu, sa relation avec lui. On reprend le premier chapitre du livre, le contexte s'adresse aux prêtres, aux sacrificateurs, qui finalement avaient pris l'habitude d'être des gens religieux. Vous voyez? Alors voilà, moi, le Seigneur de l'univers, voici ce que je dis au prêtre. Un fils honore son père, un serviteur respecte son maître. Vous m'appelez votre père, mais est-ce que vous m'honorez? Vous m'appelez votre maître, mais est-ce que vous me respectez? Vous me méprisez et vous demandez en quoi est-ce que nous t'avons méprisé? Vous apportez sur mon autel de la nourriture impure et vous demandez en quoi est-ce que nous ne t'avons pas respecté? Mais eh bien, c'est en disant l'autel du Seigneur est sans importance. Et au verset 12, ça se dégrade encore plus, parce que là, on atteint les sommets, mais vous ne le respectez pas quand vous dites l'autel du Seigneur est impur et la nourriture que nous en retirons est vraiment peu de choses. Que s'est-il passé? Les offrandes étaient là, le temple était là, la liberté était là, la liberté de culte, elle était là. Les prêtres, ils étaient là, ils faisaient leur boulot. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout fonctionnait. Tout avait l'air en tout cas de fonctionner. Et le peuple disait à Dieu, mais où est-ce qu'on te méprise? Mais tout roule. Tout va bien, il n'y a aucun problème, aucun souci. Tout roule. Tout roule. À part qu'il disait aussi, la nourriture que nous en retirons est vraiment peu de choses. Vous voyez? La nourriture que nous en retirons pour nous est vraiment peu de choses. La table du Seigneur, finalement, n'a guère d'importance. Finalement, ça peut être difficile de venir communier avec les frères et sœurs. On peut trouver que le culte du dimanche est pauvre, qu'il y a peu de choses, que la nourriture fait défaut. Oui, j'en peux en venir. Bon, je ne pense pas qu'on en soit là ici. Mais il peut nous arriver de penser ça. Il pourrait nous arriver de penser ça, même dans notre église locale. C'est quoi la table du Seigneur? Alors c'est sûr, nous on pense tout de suite au pain et au vin, etc. Non, non, la table du Seigneur, c'est déjà il faut revenir au tabernacle, il faut revenir, il faut faire un saut dans le lieu saint pour redécouvrir la table, il faut revenir à l'autel des sacrifices, il faut revoir ce qu'étaient les pains de proposition et se rappeler que Jésus est le pain de vie. Là, on commence à avoir une vision un peu plus claire de la table du Seigneur. Il faut rentrer dans ce lieu saint pour redécouvrir ce que représente la table de la communion avec Dieu, la table de la protection de Dieu. Psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, de mes ennemis. Il nous faut aussi redécouvrir la table de Dieu en tant que lieu où on se réunit, où on se retrouve, où on s'encourage, où on s'aime malgré les différences. Cette table de communion du repas qui se dresse aussi devant nos ennemis. Devant nos ennemis. Les ennemis de Jésus. Banaliser cette table, mes amis, serait de la folie. Dire que finalement elle n'a pas d'importance, dire que finalement j'en retire que peu de choses, eh ben c'est grave. C'est un malheur. Quelle importance donnons-nous à la communion fraternelle? Quelle importance donnons-nous à cette mémoire que nous sommes censés avoir tant de joie à vivre le dimanche et les autres jours de la semaine? Par un petit message, un petit SMS, un petit coup de fil. Cette mémoire qui nous dit que nous pouvons être à table avec Jésus. Je peux être à table avec Jésus. Tu peux être à table avec lui. Parce que il a tout payé. Il a payé la note. Par sa grâce. Nous y sommes tous invités. Quelqu'un a dit que la grâce, c'est le ciel qui a donné ce qu'il avait de meilleur pour acheter ce que la terre avait de pire. Dans son livre La vie ensemble, le pasteur Dietrich Bonhoeffer nous donne un commentaire incisif sur ce qui se passe souvent dans la communion fraternelle entre chrétiens. Il donne par contraste une image de ce que devrait être la vraie communion dirigée par la grâce. Tout est bien. Il est possible, dit-il, que les chrétiens, malgré les cultes de louange à l'église, la prière en commun et les autres rencontres, se sentent tout de même isolés. La vraie communion ne s'installe pas. Ils ont une communion en tant que croyants. Ils n'ont pas cette communion en tant que pécheurs. Ils ont cette communion en tant que croyants, mais ils n'ont pas cette communion en tant que pécheurs. Intéressant. La communion des hommes pieux, écoutez bien, ne permet à personne d'être un pécheur. On ne s'y attendait pas à celle-là. La communion des hommes pieux ne permet à personne d'être un pécheur. Chacun cherche plutôt à cacher son péché à soi-même et à la communauté. Waouh! Moi, ça me fait réfléchir, ça. Ça me fait réfléchir. Je ne sais pas vous, mais moi, en aucun cas, je veux négliger et ignorer être de ceux qui disent que la table du Seigneur n'a pas d'importance. Parce que la table du Seigneur, elle est pour des pécheurs. Et je suis un pécheur. N'est-ce pas? La communion n'a que peu d'importance, que la proximité de Dieu et des frères n'a que peu d'importance, que la paix vécue autour de la table, la paix qui nous vient de Dieu, parce que nous sommes acceptés, invités à cette table en tant que pécheurs, ça a peu d'importance. Wow. Malachie nous montre que le peuple de Dieu était entré dans un formalisme et qu'il banalisait la présence de Dieu. Le formalisme. Aujourd'hui, au XXIe siècle, je crois que notre façon de banaliser a deux grands pôles. L'un des deux pôles, c'est d'être des personnes religieuses, fidèles au temple, quels que soient les temples, hein, et qui finissons par ne plus réaliser le grand privilège d'être si près de Dieu et si près les uns des autres. Qui finalement ne réalisons plus la possibilité d'être vraiment proches dans la communion fraternelle. On ne réalise plus cette possibilité d'être proches les uns et les autres. Mes amis, nous sommes vraiment proches. C'est vrai qu'il y a des différences de caractère. C'est vrai qu'il y a des statuts différents, des statuts professionnels, etc. Mais on a quelque chose en commun. Nous sommes des pécheurs, invités à la table de Dieu. Et parfois, on réalise plus vraiment le grand privilège que nous avons. Nous banalisons. Et l'autre pôle de la banalisation, c'est un produit de notre individualisme. De nombreux croyants restent seuls, sans église, et disent que de toute façon, toutes les églises ont des problèmes. Alors à quoi bon? C'est un fait. C'est un fait. Oui, toutes les églises, mes amis, ont des problèmes. Oui. Nous en avons plus que d'autres, mais aussi moins que d'autres. Et je ne vous apprends rien. Et parfois, dans certaines situations, on peut se dire, je crois que pour être vraiment spirituel, je vais rester à la maison ce matin. C'est la seule solution. Pauvre de moi. Est-ce que cette attitude banalise la table du Seigneur? Ben oui. Est-ce que ça banalise la communion fraternelle? Eh bien oui, parce que la table du Seigneur, elle est liée à la communion fraternelle. Nous communions. On ne le fait pas aujourd'hui, mais on est dans la communion, on communie avec le Seigneur, parce que nous sommes des pécheurs, parce que nous sommes imparfaits. Alors c'est vrai que moi tout seul, je suis relativement spirituel. Aucune confrontation avec quelqu'un d'autre, finalement c'est bien. Personne qui me contredit. Aucune autre pensée à gérer, pas de souci d'écouter l'autre, pas de déception concernant les chants, l'ambiance, les projets, la vision. Il y en a, il n'y en a pas, je suis tout seul. Comme ça, tout va bien. On peut être, je ne serai pas déçu par le prédicateur. Je suis tout seul. Mais le plan de Dieu, c'est la table. Le plan de Dieu, c'est la table. La communion avec lui, la mémoire de ce qu'il a fait. La mémoire de ce qu'il fait dans nos vies, de ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. Le plan de Dieu, c'est de former son épouse qui est l'Église. Bien sûr, pas l'Église d'une dénomination, mais l'Église du monde entier. Tous ceux qui croient en lui, qui ont mis leur confiance en lui, ça c'est son plan. Et on est dans son plan. On vit dans l'Église universelle et locale en même temps, et on vit la communion fraternelle. Et c'est au travers de la communion fraternelle que nous vivons l'Église. Pas autrement. Impossible. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous soutenir, à nous encourager, afin finalement d'atteindre les objectifs de Dieu. Et le premier objectif, ce n'est pas d'avoir un planning de fou, quoi. Faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Non, c'est ressembler à Christ. Ça, c'est le premier objectif de Dieu pour nos vies. Il veut que nous ressemblions à Christ. Et le deuxième, c'est d'entrer finalement dans la mission d'annoncer, de partager la bonne nouvelle. Dans Malachie, lorsque le peuple de Dieu a commencé à minimiser, à banaliser la table du Seigneur, Dieu dit un petit peu plus loin encore dans le texte, versets 9 et 10, Maintenant, essayez de me prier, moi, votre Dieu, pour que j'aie pitié de vous. Est-ce que je vous recevrai avec bonté après ce que vous avez fait? Mais je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers. Il vaut mieux pour que l'un d'entre vous ferme les portes du temple, ainsi vous n'irez pas allumer le feu sur mon autel pour rien. Hein? En effet, moi, le Seigneur de l'univers, je n'ai aucun plaisir à vous voir, et les offrandes que vous me présentez ne me plaisent pas. Vous voyez le drame, la progression. Là, Dieu, il est carrément en train de dire, écoutez, franchement, finalement, oui, vous avez raison, restez à la maison, fermez les portes, ne vous cassez pas la tête, à allumer la lumière, la clim. Ne vous prenez pas la tête avec ça, c'est bon. Ça m'intéresse pas. Vous voyez? On passe à côté de l'essentiel et du coup Dieu nous dit, ben, il nous renvoie quelque part à cette religiosité qui est ancrée en nous, parce qu'on pense que finalement faire ces choses-là, ça fait de nous des chrétiens. Vous voyez le drame? L'activisme de fond, il n'y a plus le cœur. Et on est dans l'activisme. On banalise, on dédaigne et tout d'un coup, on réalise qu'il y a un problème, alors on va quand même prier. On va organiser des campagnes d'évangélisation, des réunions de formation. Il faut faire pour trouver une solution au problème. Et Dieu vient, il nous dit, non, non, attends, attends. Après, vous venez me supplier. Après, vous venez me supplier. Et il dit, est-ce que je vous recevrai avec bonté après ce que vous avez fait? Et en réfléchissant un peu, Je me dis que si nous vivons uniquement pour nous, même au travers d'actes religieux, hein, même au travers des actes religieux banals, est-ce que nous pensons que Dieu va nous recevoir avec bonté? Je crois que le peuple pouvait crier tant qu'il voulait. Ça ne changeait rien. Parce qu'il y avait une banalisation. Parce que finalement, on peut faire beaucoup de choses, mais sans le fond. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus le cœur. La vraie relation avec lui nous conduira toujours vers la vraie relation avec les frères et sœurs, avec ceux qui nous entourent. C'est pas possible sans ça. On peut faire la Sainte-Cène tous les dimanches, on peut la faire même trois fois par jour. Si on n'a pas une vraie relation avec Dieu, une vraie relation avec les frères et sœurs, ça ne sert à rien. Parce que c'est le chemin qui nous fait réaliser que nous avons besoin les uns des autres. L'Église, c'est ça. Le corps, c'est ça. On a besoin les uns des autres. Tout seul, quelles que soient nos capacités, quelles que soient nos capacités, quels que soient nos ministères, seul, ben, on n'arrive à rien. Nous devons redevenir, comme disait Jésus, comme des enfants. Parce que les enfants sont dépendants des parents. Ils croient parfois qu'ils ne sont pas dépendants, mais ils le sont, d'une manière ou d'une autre. Un enfant est dépendant de son papa et de sa maman. Et nous sommes dépendants de Dieu. Le troisième malheur, on va arriver au bonheur. Alors le premier, c'était aveuglé par l'orgueil et la suffisance. Le deuxième malheur, c'est la banalisation de la communion avec Dieu et les frères et sœurs. Et le troisième malheur qui suit, c'est au verset 13, vous dites aussi, quel travail décourageant. Vous me méprisez, moi le Seigneur de l'univers, vous m'apportez des animaux volés, boiteux, malades, eh bien, je vous le demande, est-ce que je peux accepter de vous ces offrandes? Et là, finalement, ce sont les serviteurs du temple qui disent, quel travail décourageant, quelle fatigue. Et Dieu dit, et vous en faites fi, c'est-à-dire vous dénaignez, vous méprisez. Et quand ça devient difficile d'être au service de Dieu, lorsqu'il y a de plus en plus de choses qui nous découragent, lorsque notre engagement devient une charge, nous baissons les bras. On est tous passés par là à un moment donné dans notre vie. Un moment où, voilà. Oubliez finalement le privilège d'être au service de Dieu. Quel que soit notre âge et nos activités, nous sommes tous au service de Dieu. On est autant serviteur à 30 ans qu'à 90 ans. Pas de la même manière, mais on est serviteur. La semaine dernière, j'ai été surpris d'un frère à Antibes qui est venu me voir quand j'ai fait la présentation du projet missionnaire. Il est venu me voir, il m'a dit « Daniel, je vais te donner mon email parce que mon ministère, c'est la prière. Tu m'envoies des sujets précis. » Waouh ! J'étais super content de savoir qu'une personne prie pour toi. Sincèrement, je préfère ça qu'ils me disent, tiens, écoute, bon, combien tu as besoin? Je te fais un chèque de combien, là? Non, quelqu'un qui prie, ben, c'est 100 fois plus important. Quelqu'un qui prie. En tout cas, les prêtres sont fatigués. Ça devient difficile d'être au service de Dieu et l'engagement devient une charge. On baisse les bras. J'espère qu'il n'y a personne comme ça ce matin. Être serviteur, ce n'est pas réservé aux pasteurs, évangélistes, missionnaires, anciens, diacres, non, non. Un service dans l'Église n'est jamais ingrat non plus. Un serviteur est généralement plus petit que les autres, jamais plus grand. C'est un honneur que Dieu nous fait. Et Dieu nous dit, ben, allez, viens travailler avec moi, je vais t'utiliser. Mais dans Malachie, les serviteurs s'occupaient du temple, ils étaient là. Ils étaient là, hélas. Et dans cette lassitude, dit le chapitre suivant, ils avaient commencé à ne plus prendre la parole de Dieu au sérieux. Ils commençaient à nommer gris ce que la Bible dit noir. Certaines choses qui étaient grises, on les nommait blanches. C'est-à-dire qu'ils commençaient à faire de l'adaptation. Ils adaptaient. Et je les comprends. On les comprend. Pourquoi ? Mais parce que finalement, le service religieux, mes amis, C'est épuisant. C'est épuisant. Ça fatigue. Si notre service est simplement religieux, on ne va pas tenir le coup. Si on doit faire bonne figure les uns avec les autres, on ne tiendra pas le coup. On n'y arrivera pas. Parce que nous sommes des pécheurs. Repentants, mais nous sommes des pécheurs. Et si on essaye d'être bien, moi ce que j'apprécie ici, c'est qu'on est nous-mêmes. Alors bien sûr, avec des retenues, bien entendu, mais on est nous-mêmes. Ça fait du bien d'être soi-même. Dans l'église, c'est comme si toi, tu étais chez toi, dans ta maison, avec ton époux ou ton épouse, et que tu ne sois pas toi-même. Mais ce n'est pas une vie, ça. Ça ne tient pas. Ce n'est pas une vie. Il faut que nous soyons nous-mêmes, avec nos défauts, avec nos qualités. Parce que ça fatigue. Ça nous permet de ne pas baisser les bras. Et ça, être nous-mêmes, ça ne peut pas se faire sans amour. Autrement, on va commencer à tordre l'écriture. Au début, tout le monde est au boulot, mais au bout du compte, on ne voit plus Dieu. On ne voit plus le cœur de Dieu. On commence à avoir une vision déformée de Dieu. Et dans Malachie, au chapitre 2, verset 17, Dieu dit, vous fatiguez le Seigneur. Alors là, vous êtes fatigué, mais là, vous me fatiguez. Vous fatiguez le Seigneur avec vos discours, vous dites, comment est-ce que nous te fatiguons? Tout le monde est fatigué dans l'histoire, quoi. Pourtant, il n'y a personne qui est corse, là, c'est l'israélite, hein. Vous le fatiguez quand vous dites, ceux qui font le mal, le Seigneur les regarde avec bonté. Oh là! Il approuve ces gens-là et vous dites, le peuple qui juge avec justice, que fait-il? Parce qu'on a l'impression que ceux qui font le mal, finalement, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent mieux que nous. Mais si dans Ésaïe, il est dit que Dieu ne se fatigue jamais, là, bizarrement, vous voyez que dans Ésaïe, il est dit ça, Dieu ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Ben là, il est fatigué. On est arrivé quand même au bout du bout avec Dieu. Il faut quand même en prendre conscience. Hein. Il y a des moments dans la vie où franchement, il est comme ça, tu vois. Oh mon Dieu. Et là, on commence à appeler mal ce qui est bien à ses yeux. Bref, le chemin de retour, on y arrive. Trois malheurs, aveuglés par l'orgueil et la suffisance, banalisation ou dédain de la communion avec Dieu et des frères, lassitude, ne plus voir Dieu comme il devrait être, comme il est, et ne plus nous voir nous-mêmes comme des serviteurs. Le chemin du retour. Malachie, chapitre 3, verset 6, ça, il faudrait le souligner, « Moi, le Seigneur, je ne change pas. » Ben oui. Le problème, c'est que nous avons tendance à poser sur Dieu ce que nous sommes. Nous, nous sommes changeants. Il faut dire ce qui est. On est changeant. Dans nos relations, on est changeant, dans notre façon de... On est changeant. Il suffit des fois d'un petit truc pour que ça y est, on change. Mais lui, il ne change pas. C'est bien. Il est le créateur de l'univers. Il n'y a rien de plus grand que lui. Il ne change pas. Il a triomphé sur toutes les puissances ennemies. C'est lui qui tient l'univers et le monde entre ses mains. Il est le souverain. Il est tout puissant. Il ne change pas. Il n'y a aucune puissance au-dessus de lui. Il ne change pas. Il est le Dieu d'amour et de justice. La miséricorde et la droiture sont dans ses mains. Il ne change pas. Il est tout ce que nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin pour connaître la vraie vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. Il ne change pas. Dieu ne change pas. C'est vers lui que nous tournons nos regards. Quand nous sommes là le dimanche matin, mais la semaine aussi, c'est vers ce Dieu-là qui ne change pas. Quand Paul a parlé de l'alpha et l'oméga, ce qu'il y a d'intéressant dans ces deux lettres, c'est qu'ils n'ont... Nous, on a tendance à dire la première lettre de l'alphabet, c'est le A, la dernière, c'est le Z. Mais dans cette idée d'alpha et d'oméga, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est un commencement éternel. Et il n'y a pas l'oméga, ce n'est pas une fin, c'est une fin éternelle. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il ne change pas. Alors, je ne sais pas, mais peut-être qu'à l'époque, ceux qui ont entendu ce texte ont réalisé que Dieu ne changeait pas. Ils ont dû se jeter peut-être en larmes aux pieds de Dieu. Et peut-être ils se sont dit, mais quel culot on a de te remettre en question. Qui sommes-nous pour t'avoir demandé de nous prouver que tu nous aimes? Qui sommes-nous pour avoir dit que la table, finalement, il y avait pas grand-chose? Qui sommes-nous pour avoir pu décider nous-mêmes de ce qui est bien ou mal? Tout comme vos ancêtres, au verset 7, vous vous êtes éloignés de mes enseignements, vous ne les avez pas suivis. Revenez vers moi, je reviendrai vers vous, je le dis, moi, le Seigneur de l'univers. Et ce qui m'étonne vraiment dans ce texte, c'est que Dieu nous donne à nouveau la priorité, c'est-à-dire l'importance du libre choix. Pas uniquement un libre choix pour la nouvelle naissance, où on dit oui, ok, mais aussi ce libre choix pour un chemin de retour vers Dieu. Dieu attend de nous une démarche. Tu es réellement Dieu. Tu es Dieu. J'attends de toi que tu viennes vers moi. Ça, c'est important à s'en rappeler. Il n'y a pas un trait dans notre vie, il ne tire pas de trait sur la page de notre vie. Il nous appelle constamment au retour. Il a un fardeau. Parce que c'est vrai que son fardeau à lui devient le nôtre. Son fardeau, c'est le salut. Parce que finalement, toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de la Bible tourne autour de ça, du sauvetage des hommes. Ce fardeau devient d'un coup notre raison d'être. Certes, avec notre fragilité, on est fragile, avec nos imperfections, même nos imperfections communautaires. On porte ce fardeau dans nos cœurs, le trésor dans des vases de terre, comme dit l'apôtre Paul. On porte ce trésor dans des vases de terre. Mais ce fardeau, qui est un trésor inestimable, devient notre raison de vivre. Et nos fardeaux à nous, ben il les prend. On prend le sien et nous lui donnons les nôtres. Et ça change tout. Chacun aussi, dans l'échange, nous portons nos fardeaux les uns les autres. C'est ce que la Bible dit. C'est important. Donc je termine par Malachie au chapitre 3, où il y a cette réalité qui est merveilleuse, où Dieu dit, au lieu de réfléchir à si ça vaut le coup, la table du Seigneur, au lieu d'amener des bêtes, des sacrifices finalement à contre-cœur, au lieu de faire les choses à contre-cœur, eh bien il dit, essayez plutôt de ramener à l'Éternel tout ce qu'il vous donne. En fait, il est en train de nous dire, essayez de ramener votre reconnaissance. Parce qu'on peut faire une liste de choses qui ne vont pas dans notre vie. Mais on peut faire aussi une autre liste pour dire, voilà, ça va. Quand même. Quand même. Essayez plutôt de ramener à l'Éternel tout ce qu'il vous donne. Verset 10. Apportez donc réellement, réellement. Pas simplement. Apportez donc réellement le dixième de vos biens dans la salle du trésor pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. Si nous arrivions à reconnaître 10% du bien qu'il nous fait, c'est ça. Si on arrivait à rapporter à Dieu les 10% du bien qu'il nous fait, mais on serait émerveillé. Je l'affirme moi, le Seigneur de l'univers, vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel, les écluses. Et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Une fois de plus, le Seigneur nous demande de faire le premier pas. C'est un libre choix. Ah, c'est sûr que nous préférerions voir les écluses qui s'ouvrent un peu avant. On préfère donner de notre amour quand les écluses sont ouvertes. Mais peut-être que Dieu nous demande de donner notre amour avant. Quand elles s'ouvriront, je donnerai. Ça, c'est pas la foi. Quand j'aurai de l'amour, je pourrai en donner. J'en ai pas. Alors j'en donne pas. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Surtout quand on dit Seigneur, tout t'appartient, je veux te donner, je veux aimer et m'investir dans ton royaume. Tu as donné ta vie pour moi, pour toutes ces âmes que je croise chaque jour. Je suis ton serviteur. Israël n'avait pas compris cela. Il devait être une lumière pour les nations. Et Jean-Baptiste est arrivé, et il a dû crier une autre fois dans les rues, dans le désert et sur les chemins, repentez-vous. Aucun changement dans le message. C'est exactement le même que qu'on entend du début de la Bible jusqu'à la fin. Il n'y a aucune autre solution possible. Jésus a commencé aussi son message par « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Toujours le même message. On pourrait faire la liste des bénédictions aussi qui découlent de la réponse à cet appel. Que nous puissions comprendre seulement que le service est un honneur et que chacun de nous est appelé à le servir pour la gloire de son nom. C'est un honneur. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce livre et ce prophète qui a tant à nous dire aujourd'hui, à notre époque. Seigneur, c'est vrai que nous voyons le monde changer. Nous voyons les peuples s'agiter. Nous avons des doutes sur ceux qui vont être élus ou ceux qui l'ont été. Seigneur, nous voudrions te prier pour nos dirigeants, comme nous le dit la Bible. Accepter ta décision aussi, parce que c'est ta décision qui est là. C'est toi qui mets les rois à leur place. C'est toi qui permets que certaines arrivent au pouvoir. C'est toi aussi qui garnis ton Église de tes dons. C'est toi qui équipes tes serviteurs. Et Seigneur, nous voudrions simplement te remercier pour notre Église locale et merci pour les dons que tu lui as faits. Merci d'avoir équipé les uns les autres. Merci pour l'amour, pour l'humilité aussi, que nous pouvons vivre les uns avec les autres. Merci pour la joie d'être ensemble, de vivre notre vie ensemble, parce que finalement, nous vivons notre vie ensemble. Et c'est ton choix. Seigneur, merci pour ta grâce, ta patience envers nous. Et nous voulons renouveler notre amour pour toi, sachant que ton amour à toi ne change pas. Amen.